Bonsoir, Douglas Kennedy. Au travail, effectivement, au travail. Comment allez-vous?
Ah, pas mal. Je suis arrivé de Londres. C'était 2h30 à Londres quand je me suis levé pour un vol à 6h20, mais j'ai fait une sieste et je suis...
Cool. Vous êtes prêt?
Je suis prêt. J'ai fait une heure de sport. En fait, le sport, c'est comme l'écriture. Je déteste le sport, mais j'aime le résultat. Et voilà. C'est un peu comme ça.
Et à l'écriture voilà. Aussi?
L'écriture... est-ce que c'est un plaisir après?
Ah oui.
Après, toujours. Mais c'est, oui, même si après 25 livres, on a des vues tout le temps. Et aussi, on a des crises avec chaque roman. Ça, c'est comme d'habitude maintenant. Une petite histoire, ma fille Amelia qui vit à New York, mais elle a grandi à Londres, elle a terminé son premier roman, c'est pas mal. Et elle a trouvé une éditrice, mais il y a 6 mois, elle m'a appelé à 2h30, en fait l'heure française, elle sait que je suis un homme des nuits, et c'était en fait 20h30 à New York, elle m'a dit, papa, je ne peux pas terminer le roman. C'est horrible, en fait, c'est de la merde, en fait, je le déteste. Et j'ai répondu, bienvenue à l'écriture. Mais aussi, en fait, je lui ai dit, ok, je vais dire quelque chose de très direct. Si tu ne termines pas le roman, je serai, en fait, triste, et tu seras très triste. Et pour le reste du monde, c'est « et alors ?» Et ça, c'est quelque chose, en fait... dans ma tête, tout le temps, en fait, chaque roman est un défi. Le moment qu'on, clairement, je connais un certain niveau de succès, globalement. Mais en même temps, pour moi, en fait, je reste quelqu'un qui prend le métro, quelqu'un qui fait des courses, quelqu'un qui vit d'une certaine manière une vie quotidienne. Pas très quotidienne, mais de certaine manière quotidienne. Et je pense que aussi, si on reste un peu anxieux, tout le temps au sujet de la culture, ça va nourrir le processus. Parce que oui, le moment quand on pense « je suis le grand écrivain », c'est fini. C'est à fond fini.
Vous aussi, vous avez des moments où vous vous dites « j'arrête celui-là, je ne le termine pas, il est nul ».
Franchement, en fait, 26 livres maintenant et je... je n'ai jamais abandonné, en fait, un roman. La vérité avec Les hommes ont peur de la lumière, le premier jet de ce roman et le sixième qui était, en fait,
d'accord,
cette version dans Woman, en fait, c'était complètement différent. J'ai un rendez-vous ce week-end, c'était une des raisons pour lesquelles, pour voir mon fils, mais aussi un rendez-vous avec mon éditrice anglaise pour discuter le nouveau roman qui est jet de ça. Et on va tout réinventer ensemble. Ça, c'est aussi l'écriture. Ce n'est pas comme j'écris un jet et c'est fini.
Et vous aimez ces moments-là où vous discutez avec votre éditeur et où vous reprenez
et
où...
Oui et non. Vraiment, en fait. Le truc, c'est intéressant, même si après 33 ans de l'écriture et 25 livres, quelqu'un m'a demandé quelle est en fait la chose la plus difficile. Et c'est, j'ai dit toujours, c'est quand je vais livrer le manuscrit. Mais maintenant, ce n'est pas livré comme ça, c'est clic.
Oui.
Mais oui, au début de ma carrière, c'était un vrai manuscrit.
Oui,
oui sur le bureau de mon éditeur, éditrice. Mais maintenant, c'est un clic. Et puis, en fait, on attend le jugement. Toujours.
Alors, sur donc, Les hommes ont peur de la lumière, encore aux éditions Bellefond. Douglas Kennedy, vous pouviez quand même difficilement avoir une actualité plus brûlante.
Un peu, oui. Un peu, oui. Alors, j'ai commencé ce roman il y a 2 ans et demi. Et c'était les dernières années du Trump. Et une des choses que je dis tout le temps des jeunes écrivains, le sujet, ce n'est pas le nombril. C'est
le monde. Oh,
le monde et la roue, métaphoriquement, la vie des autres. Et quelque chose est arrivé. Ma fille, à l'époque, en fait, elle a gagné une place dans les grands conservatoires de drame aux États-Unis, à Los Angeles, CalArts. Et donc, une semaine par 8, j'étais à La La Land. Et je commence de découvrir Los Angeles très différente. Et aussi, je commence d'utiliser des Uber tous les soirs. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était moins cher qu'une voiture de location. Aussi, on peut éviter le parking et aussi, on peut boire. ou maintenant, en Californie, l'herbe est légale aussi. Mais oui. Et donc, parce que pour moi, chaque vie est un roman, je commence à parler tout le temps avec les chauffeurs. Et c'était une soirée, un mec, la cinquantaine, avec un tatouage militaire sur le bras, très costaud. Et j'ai dit, oh, vous étiez dans les Marines. Et mon père aussi, quand il m'a demandé la Deuxième Guerre mondiale, où? Très militaire. Et j'ai dit, Okinawa, qui était la somme de la Deuxième Guerre mondiale, 200 000 morts. Et mon père servait coup, en fait, avec une culpabilité horrible, parce qu'il était là-bas avec 8 de ses camarades de son quartier pour les terres dans le bunker, et il a servi coup. Donc, on commence à parler, et je lui dis, en fait, pourquoi Uber? Et il me dit, il y a 18 mois, j'étais vendeur dans une entreprise, de câbles, et une autre grande entreprise a mangé une autre petite entreprise et jeté licencié. 10 mois de salaire, 1 an de l'assurance médicale.
Dehors.
Hasta la vista,
baby. Brenda n'existe vraiment, donc, en fait.
Et je lui ai demandé, OK, et pourquoi Uber? Et il m'a dit, mais j'ai 57 ans, monsieur. Dans notre pays, quelles sont les options? On n'a pas, en fait, un système des HLM ou, franchement, on fait une assurance personnelle. En fait, c'était Amazon ou Uber. Et puis, en fait, je lui ai demandé, donnez-moi votre 06 et je vais acheter 2 heures de votre temps demain. Expliquez-moi Uber. Et c'est dans le livre.
Et ça donne la croyance que l'échec est un manquement personnel et que nous sommes tous capables de nous relever, les Américains. Dépousseter nos vêtements et de repartir de zéro est enraciné dans le cœur de très nombreux Américains. En fait, c'est ce sujet-là. C'est-à-dire, c'est un mythe.
C'est un mythe. En fait, le rêve américain, maintenant, c'est un mythe total. Depuis les années 80, depuis Reagan, et malheureusement, Reagan est devenu, en fait, le président le plus influentiel aux États-Unis depuis Roosevelt. Reagan a changé le trajet du pays. Il a diminué l'État, il a ouvert des portes pour la mondialisation et un capitalisme vraiment, en fait, du 19e siècle maintenant. J'ai lu un article récemment dans une revue économique américaine, en fait, très intellectuelle de Harvard, et ils ont fait une statistique, ils ont écrit une statistique extraordinaire. Il y a 50 ans, quand j'avais en fait 16 ans, la gouffre entre les riches et peut-être en fait la classe professionnelle, c'était 4 fois de l'argent. Maintenant, c'est 700 fois. Et je connais en fait des camarades de classe d'une université. J'ai un copain à Los Angeles, en fait, Kenneth, et il est venture capitaliste, en fait. Et il m'a dit, et j'ai utilisé ça dans le roman, il m'a dit, il m'a demandé, quelle est votre valeur? Oui. Et j'ai dit, je ne suis pas Stephen King, je suis écrivain, c'est pas mal, ce n'est pas immense, mais mon Dieu, en fait, je vis grâce à mon stylo depuis presque 40 ans. Et, en fait, mais il m'a demandé, OK, quelle est la valeur? Et il m'a dit, désolé. Et pour la plupart du monde, c'était pas mal. Mais pour lui, il m'a dit, plus de 50 millions maintenant. Pour moi, ça c'est le bout.
Et je en dessous, c'est précaire, en fait.
Et j'ai répondu avec un mot, pourquoi?
Alors, il n'y a pas que sur ce terrain-là hein, que vous êtes incroyablement d'actualité. C'est peut-être même le livre que vous avez écrit qui est le plus
oui.
dans l'actualité. Vraiment.
Et
tout domaine confondu.
Tout à fait. Et aussi parce que c'était franchement, les deux dernières années de Trump, la seule chose positive de Covid, Trump a perdu la maison blanche. Ouais. C'est la seule chose positive de Covid.
Mais vous avez vu venir quand même ce qui se passe à la Cour suprême en ce moment?
Tout à fait, tout à fait.
C'est
évident pour moi quand, en fait, le Sénat républicain dans les dernières années de Obama a bloqué, en fait, le juge que Obama a nommé. Et puis, tout le monde, tous les démocrates, ont pensé, ah oui, mais c'est clair, Hillary va gagner l'élection. Et franchement, après ça, immédiatement, c'était Gorsuch, qui est hyper catho et hyper conservateur. Et il a dit, non, je soutiens Roe v. Wade, qui était la loi qui a consacré, en fait, la loi de l'avortement en 73. Et après ça, Brett Kavanaugh, parce que un juge modéré, en fait, a décidé de faire la retraite. Et Kavanaugh, qui était accusé d'une viol, comme Clarence Thomas, un autre juge, qui est le juge le plus conservateur. Mais en fait, le Sénat républicain, pas de problème. Et puis, en fait, Ruth Bader Ginsburg, la juge la plus progressiste, qui refuse de faire la retraite. Obama a supplié plusieurs fois, mais elle est morte, en fait, juste après l'élection de 20. Et immédiatement, en fait, le Sénat républicain a nommé Amy Coney Barrett, qui est une fanatique catho, oui. Avec 7 enfants, et oui, elle était dans un cercle catho. Et c'était clair pour moi, surtout après Kavanaugh, en fait, c'est fini. Mais aussi, pourquoi l'avortement est devenu un problème aux États-Unis? Il y a presque 50 ans, le Cour suprême qui a consacré Roe v. Wade, c'était une Cour suprême avec une majorité républicaine, mais avec l'idée, en fait, franchement, on va rester en dehors, en fait, la vie des intimes des autres. Et aussi, c'est une question de santé publique. De santé publique. Et aussi, pour moi, ma fille a 26 ans. Comment osez-vous, Monsieur Trump, ou en fait, le Cour suprême, à dire elle ne peut pas contrôler son corps? Et donc, clairement, en fait, derrière de ça, honnêtement, j'ai des inquiétudes immenses au sujet des États-Unis. Mais je ne suis pas militant, je suis observateur.
Oh, vous êtes militant à votre façon, hein, parce que... Et d'ailleurs, oui, dans votre livre, il y a un personnage qui s'appelle Élise, chez qui on trouve essentiellement du vin et des livres.
Oui.
Et ça nous fait penser quand même que, quelque part, en tout cas, on s'interroge, Douglas Kennedy, est-ce que pour vous, finalement, la littérature, c'est le maquis? C'est un peu l'endroit dans lequel on peut vraiment s'engager, débattre et avoir le temps de s'expliquer. C'est le contraire de Twitter.
Je pense que la vérité maintenant, si 20% de la population adulte américaine, en fait, lit, ça c'est, oui, en fait, ça c'est un triomphe. Mais partout, en fait, les chiffres pour des livres sont diminués. Et pourquoi? C'est le portable, en fait. C'est le portable. Et donc, on vit maintenant pendant une période quand, OK, le roman compte, mais en fait, c'est comme en fait, des intellectuels, comme, en fait, ce personnage Élise, très marginalisé, de plus en plus. Pour moi, en fait, au début de ma carrière, comme romancier, je commence de prendre, franchement, j'ai essayé quand j'étais jeune, en fait, des romans débiles, en fait, ma famille bordélique, la première femme qui a brisé mon cœur, des choses comme ça. J'ai écrit 3 récits de voyage très actuels, l'Égypte, la ceinture de la Bible, le monde d'argent. J'ai commencé de franchement, penser, OK, je vais écrire des romans. Et je commence de lire des romans noirs tout le temps. Surtout Raymond Chandler, Simenon, les romans durs de Simenon. La neige était sale, La fuite de Monsieur Monde, Trois chambres à Manhattan. Je commence à penser, honnêtement, on peut mélanger en fait des observations sociales et politiques avec un rythme de roman noir. Et ça, c'était en fait mon idée ici.
Ok, mais là, sur celui-ci, sur ce livre-là, vous dites que vous n'êtes pas militant, vous écrivez quand même. On est en guerre contre le mâle blanc qui sent ses privilèges lui échapper et ne reculera devant rien pour garder le pouvoir. Et ces salopards ne se plient à aucune règle. Ils piétinent les droits des femmes, les minorités, les immigrés, les personnes LGBT. Petit à petit, ils transforment ce pays en république bananière, entièrement contrôlée par une élite d'ultra-riches. Je suis comme n'importe quelle américaine avec un cerveau. La direction que prend notre pays m'inquiète profondément. Et là, vous me dites, calmement, non, je suis pas militant. Là, ce qu'il me dit.
Honnêtement, en fait, je suis fâché.
Vous êtes fâché avec les États-Unis ou avec ma question?
Oui, non. Avec mon pays, en fait, avec la situation américaine maintenant, je suis très fâché.
C'est que le personnage Clara dans ce livre, c'est vous?
Oui, oui. Non, ça, c'est ma fille.
Ah oui, ça, c'est-à-dire, c'est vous qui sensibilisez.
Quand Amelia a lu le livre, elle me dit, c'est moi, papa. Et je dis, peut-être. Ah. Mais c'est son appart à Los Angeles. Et aussi, bon, on est hyper proche. Et aussi, on partage le même point de vue politique aussi. Mais la vérité, pour moi, en fait, c'est triste. Parce que de plus en plus, toutes les choses que je pense que sont importantes sont diminuées, en fait. J'ai déjeuné avec un copain à Londres hier qui travaille pour la BBC. Et en fait, la subvention de la BBC sera en fait a été coupée par Johnson. Il est dans en fait la France Musique de la BBC Radio 3. Et c'est annoncé que en 25, ils vont couper tous les orchestres. Et c'est extraordinaire. En fait, Radio France, en fait, a un orchestre magnifique. Et la musique classique, c'est une de mes passions privées. J'ai un abonnement de la Philharmonie de Berlin. J'ai 5 abonnements là-bas et aussi à la Philharmonie de Paris. Et en fait, un orchestre coûte quoi? En fait, le même prix que 3 missiles Cruz par an. En fait, ça coûte rien. Mais de plus en plus, on voit ça dans le monde, en fait, les intellectuels, ou franchement des choses raffinées, et aussi l'éducation.
Ah oui, ça vous l'écrivez aussi dans votre livre, vous dites, maintenant, il faudrait quand même que les parents arrêtent d'être résignés et soient quand même un peu plus, finalement, dans l'éducation au monde, dans l'ouverture au monde. Ça, vous l'écrivez aussi dans ce livre.
Enfin, je vais parler des États-Unis, en fait. Je pense que la situation, c'est mieux en France que les États-Unis. Mais la vérité, maintenant, en fait, même si dans une université publique, c'est à peu près 30 000 dollars par an. À Harvard, à Bowdoin, où j'ai étudié en université en fait très très élite, c'est 65 000 par an. Qui peut aborder ça pour mes enfants? J'ai écrit un scénario par an pour éviter en fait des dettes pour eux, et ça, c'est un autre aspect en fait de la vie américaine. Maintenant, la plupart des étudiants quittent l'université avec 150 000 à 200 000 dollars dette. Comment on peut en fait commencer une vie
avec 200 000 dollars?
Donc, au début et à la fin, c'est un roman noir et avec beaucoup de suspense et aussi une histoire familiale. Mais derrière de ça, oui, en fait, c'est mon roman le plus actuel.
Ah oui, et
peut-être le plus fâché.
Ah ben oui, on a l'impression que c'est un roman noir parce qu'il y a le principe de suspense que vous aimez tant. C'est aussi un roman noir parce que c'est un constat assez terrible. Vous n'êtes pas tendre avec la justice, la police, la religion, n'en parlons pas. Oui. Donc il est noir de plusieurs façons. Mais on a l'impression aussi que c'est la première fois que vous pouvez pas faire autrement que d'écrire ce constat quand même en disant, là les gars, quand même, il y a un problème.
Oui, tout à fait. J'ai écrit des fresques, en fait, historiques, comme La poursuite du bonheur, ou Les chambres de secret de la vie conjugale, ou cet instant-là. Avec des choses politiques, mais celui-ci, non, c'est l'Amérique aujourd'hui.
C'est un état d'urgence.
Oui, et aussi, en fait, une autre chose pour moi, la question de l'avortement, derrière tout ça, c'est quoi? Pour moi, c'est la revanche des hommes blancs, et aussi symbolisé par Trump, mais aussi c'est la misogynie. Et ça, c'est un aspect, franchement, de la vie américaine immense. J'ai dit ça, j'ai écrit quelque chose dans le monde,
oui.
Ici en France, il y a quelques années, j'ai dit, en fait, je pense que, et ça, ça c'était l'époque quand c'était Obama contre Madame Clinton,
oui.
Pour la nomination, j'ai dit, les États-Unis peuvent accepter un Africain-Américain, surtout quelqu'un si éduqué, mais une femme, non.
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 Mais d'ailleurs, vos personnages féminins, dans ce livre-là particulièrement, sont particulièrement forts, tous. Et ils ont quand même en commun, tous ces personnages, les femmes sont combatives.
Très combatives. Brendan, c'est un homme de la bienveillance. En fait, Brendan, en fait, mon narrateur, c'est un homme 56 ans qui a grandi dans un quartier très de la classe moyenne à Los Angeles. Ça, c'est autre chose dans le roman. Au début de l'écriture, j'ai écrit dans un de mes calepins. J'ai toujours un calepin en poche. j'ai écrit dans un de mes calepins un roman à Los Angeles sans une scène sur la plage.
Du coup, attendez, je vous arrête, parce que ça, c'est ma troisième petite, vous avez vu, j'ai pris des notes, hein. C'est ma troisième pole. Alors ça, je trouve que c'est incroyable aussi, vous écrivez Los Angeles, ce nœud sans fin, tout cet argent, toutes ces promesses, tous ces regrets, ces échecs, ce désespoir, cette déception de ne pas faire partie des rares élus, toutes ces heures à avancer au ralenti, pressées les uns contre les autres, ça donne envie d'y aller, là, tout de suite.
Franchement, c'est une ville passionnante.
Oui.
Et aussi, en fait, un des meilleurs orchestres en fait, des États-Unis. Il y avait un très bon club du jazz, c'est fermé maintenant. Mais c'est passionnant parce que c'est franchement un miroir de l'âme américaine. Le succès, c'est franchement...
Puissance 1000, vous voulez dire. Oui, Los Angeles, c'est un peu, hein, quoi, ce serait l'essence des États-Unis pour vous?
Pour moi, tout à fait, parce que c'est 11 millions d'habitants. C'est comme le Mexique ou São Paulo, deux villes que je connais aussi, mais aussi des autoroutes. Et aussi, derrière de ça, il y a franchement des gens de succès, mais cachés. J'ai une hypothèse au sujet de Los Angeles. Tout le monde est obsédé d'être à côté de la mer. ça c'est l'obsession. Mais quand on est dans la mer, on va tomber après. En fait, ça j'en suis sûr d'une certaine manière. Donc j'ai pensé d'un personnage, un mec qui a suivi toutes les règles de la vie américaine. Quelqu'un qui a grandi dans un quartier en fait très populaire. Son père était électricien dans un des studios, une famille très cato. Et j'ai une hypothèse au sujet de la condition humaine. Tout le monde a une voix de l'autorité dans la tête. C'est comme en fait la fin de Don Giovanni de Mozart,
oui.
quand le commendatore arrive qui a dit. Don Giovanni, je vous condamne, etc. Tout le monde a peur de ça. Typiquement, c'est un père ou peut-être, en fait, peut-être d'une certaine manière, une mère. Peut-être dans le cas de Brendan, c'est aussi, en fait, un prêtre. Mais Brendan est quelqu'un qui a suivi toutes les règles. Il a épousé une femme du quartier, Agnieszka. Polonaise, Cato, ils ont perdu un enfant très jeune, en fait, 8 mois. Elle est tombée dans une dépression. Un enfant après ça, Clara, la fille maintenant. Le mariage est cuit, en fait, c'est asexuel. Il a perdu son poste. Il travaille 70 heures par semaine pour à peu près 700 dollars. Ça, c'est 600 euros. Ça, c'est sa vie. Et puis, en fait, un après-midi, et la seule chose positive, c'est sa fille Clara, qui a 24 ans, et qui est très progressiste, hyper proche de papa et aînée de maman, à cause du fait que maman, maintenant, est très impliquée dans le mouvement contre l'avortement. Et puis, une après-midi, Brendan a un nouvel client, Elise, en fait, une femme presque 70 ans qui vit dans un immeuble près de fac de UCLA, UCLA en anglais, clairement ex-universitaire, élégant, on découvre, elle est ex-professeure de la littérature et la langue française, Harvard, Paris 4, elle a deux journaux, en fait, elle est polie. Elle demande d'écouter la radio publique et l'adresse pour le voyage, c'est un centre commercial 10 km de UCLA et c'est une clinique d'avortement. Et après ça, il faut que vous lisez le roman. Mais...
Bah là, vous avez dit, en racontant tout ce début, il y a beaucoup de thèmes qui vous sont chers et qu'on retrouve assez facilement dans votre littérature. Bon, on a bien compris que pour vous, la famille est un mythe. Ça fait longtemps qu'on a bien compris ça aussi, quand même. Que définitivement,
c'est un mythe.
C'est un mythe.
Et surtout aux États-Unis, on crée l'idée de la famille idéale.
Oui, c'est ça.
C'est comme le couple idéal, en fait. On est obsédé avec la fidélité aux États-Unis. On est obsédé avec des valeurs familiales. Et franchement, dans la convention républicaine, en 2020, en fait, le nombre de prostituées de deux sexes engagées par des délégués était en fait hallucinant, selon en fait un copain de moi qui est journaliste de Washington. Les valeurs familiales, tout en l'hypocrisie. Mais derrière tout ça, c'est intéressant parce que une amitié développe entre Elise et Brendan. Elle est très éduquée. Son père, son mari, en fait, elle est veuve maintenant. C'était en fait avocat gauchiste, mais franchement avec un cabinet de succès. Donc la classe professionnelle. Brendan, mal éduqué, en fait, il lutte, mais il est hyper proche de sa fille. C'est la seule chose positive dans sa vie. L'inverse, Elise, elle a aussi une fille unique, mais elle s'est rebellée contre ses parents, et maintenant elle est une golden girl de Wall Street, qui adore Trump.
Mais vous écrivez dans votre livre que finalement, Brendan et Elise aussi, d'une certaine façon, vous racontez que vos personnages, vous écrivez, ils sont embobinés par le système. Et donc vous démontrez comment, à un moment donné ou à un autre, on perd, quoi. C'est comme un jeu. C'est-à-dire, soit on fait une grande carrière, on n'a pas le temps pour les enfants, soit on est proche des enfants, soit on n'a pas les valeurs. Mais en tout cas, il y a un moment donné, ça ne marche pas. Et en cela, vous rejoignez un peu l'écriture de Joyce Carol Oates quand elle écrit le livre des martyrs américains, qu'elle prend du temps pour expliquer pourquoi ces personnages sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, avec une telle violence. Donc vous avez quand même, quoi qu'il arrive, une affection plutôt pour même ces extrémistes radicaux, violents. Vous avez en vous une bienveillance sur la nature humaine, quoi qu'il arrive.
Pas contre en fait des gens, des voyous terroristes, non, absolument pas. Pour quelqu'un comme Brendan, absolument, tout à fait. Un empathie immense pour des gens
qui... vous campez un personnage, un héros qui est d'une grande gentillesse et d'une grande tolérance.
Oui, et aussi une bienveillance. C'est un homme de bonté. Mm. C'est sûr de ça. J'ai une grande empathie pour des gens comme ça. Et j'ai dit ça à mes enfants quand ils étaient très jeunes. En fait, regarde, en fait, la femme à la caisse au supermarché, bing, bing, bing. Il y a une vie là-bas, avec des problèmes, des crises, des rêves. Bing, 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 en fait, et chaque vie est un roman. Au sujet, en fait, des gens extrêmes, franchement, depuis le début de mon écriture, quand j'ai voyagé en Égypte et j'ai survécu, en fait, cinq jours à Assyut, qui est le siège social, en fait, fondamentalisme islamique en Égypte, en fait, j'étais fasciné par la foi. au pays de Dieu, en fait, mon récit de voyage. Quand j'ai voyagé parmi des néo-chrétiennes et des évangélistes dans le sud des États-Unis, pour ce roman, j'ai une copine au Canada et elle a une tante qui est hyper militante contre l'avortement. Et j'ai dit à Virginia, en fait, donnez-moi son numéro et fais une introduction. J'ai parlé avec cette femme. La conversation a duré 3 heures et demie. Quand elle commence à parler, c'était sans fin. Et j'ai une méthode avec quelqu'un comme ça. Je suis hyper poli, sérieux, et très intéressé et jamais... Mais vous pensez ça, c'est un peu extrême. Non, je pose des questions et elle commence à dire des choses qui est dans en fait, la bouche de Agnieszka et sa copine, en fait, au sujet de l'avortement, mais aussi la contraception. C'est un complot, en fait, etc., etc., socialiste. Honnêtement, en fait, le fondamentalisme, c'est partout maintenant. Ça, c'est aussi un aspect d'aujourd'hui. Et une violence avec ça aussi.
Mais vous aimeriez être comme Brendan, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, réussir à excuser les gens? Vous aimeriez bien ça?
C'est impossible d'excuser les gens. C'est impossible, j'imagine, d'excuser des gens qui ont fait le Bataclan, par exemple, ou le 11 septembre. C'est impossible d'excuser ça.
Mais en même temps, dans votre livre, vous campez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que vous parlez de la foi, l'extrémisme, qui rend complètement dingue, et en fait, de gens qui ont perdu le sens de la réalité, mais vous parlez aussi des gens qui ont une posture de la foi, comme Todor, ce prêtre, qui est le prêtre de Beverly Hills, et qui, lui, est en représentation de ça. Mais on n'est pas sûr qu'il y croit.
Non, mais aussi, en fait, et c'est très important, quand on écrit quelque chose comme ça, il faut rester nuancé. Parce que ce n'est pas comme un western, en fait. Des gens, en fait, bienveillants avec des chapeaux blancs et des voyous avec des chapeaux noirs. En fait, il faut créer quelque chose d'intéressant et découvrir quel est derrière le fondamentalisme avec Todor, le prêtre, qui est en fait le copain d'enfance de Brendan. Franchement, il veut avancer dans l'Église. C'est un business. Et voici une méthode d'avancer. En fait, il veut devenir archbishop ou quelque chose comme ça. En fait, le résultat, c'est autre chose. Mais
en même temps, vous soulignez ça. Vous soulignez qu'il ne faut pas oublier que la foi, quelle qu'elle soit, est aussi associée à un business.
Oui, oui. La foi, c'est très ouvert. C'est comme le titre. Les hommes ont peur de la lumière. Mm-hmm. OK. Qu'est-ce que c'est la lumière? Le titre, j'étais au milieu de l'écriture et j'ai découvert par hasard une citation de Platon.
Que vous mettez au début du livre.
On peut pardonner un enfant qui a peur de l'obscurité, mais la plus grande tragédie de la vie, c'est les hommes qui ont peur de la lumière. Et j'ai pensé, click, that's it.
C'est ça.
Exactement. Mais j'adore en fait des choses ambiguës. Et qu'est-ce que c'est, en fait, la lumière? Dans tous les textes religieux, c'est un signe de siècle, de Dieu. Il y a une hypothèse. À la fin de la vie, on va suivre, en fait, une lumière blanche jusqu'à de l'autre côté. Je vais découvrir ça. J'espère pas demain, mais si ça c'est la vérité ou pas. Honnêtement, en fait... Je peux porter un t-shirt avec deux mots, très facile, aucune idée. Je n'en ai aucune idée, comme ça. Mais si on a la foi, on a l'idée, mais on a la vérité, on a la lumière.
Oui, ok. Mais en ouvrant votre livre et en tombant sur Platon, on se demande dans quelle mesure la philosophie, parce que vous dites souvent que Simenon, le polar vous a inspiré, et la philosophie.
Oui, en fait.
Autant.
Parce qu'on est à Bordeaux, en fait, montagne. Toujours montagne pour moi. En fait, ça c'était une clé au début, d'une certaine manière, Sartre. aussi. De cette manière, franchement, pour moi, Kierkegaard. Kierkegaard, parce que Kierkegaard, c'est très humaniste, en fait. Des philos comme Wittgenstein, c'est passionnant, mais c'est impossible de suivre. Mm-hmm. Franchement, en fait, comprendre Wittgenstein, c'est que, est-ce que c'est possible de siffler Boulez, par exemple? Oui. Non, oui, ce n'est pas possible. mais avec Kierkegaard, franchement, j'aime l'idée qu'avec le philo, comme la littérature, on peut faire face des choses évidentes, des questions évidentes, sans réponse, mais aussi de manière accessible. Il y a une idée, si c'est la vraie littérature, c'est difficile à lire. Crime et châtiment n'est pas difficile à lire. Franchement, en fait, Gatsby le Magnifique, qui est pour moi, en fait, le roman américain le plus parfait, est très, très facile à lire.
Vous aimez, en fait, d'abord qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions. Vous redoutez finalement le plus, quand vous prenez cet exemple de tir, ce que vous redoutez le plus, c'est les gens qui savent déjà tout à l'avance. Et quoi qu'il arrive, vous voulez que vos romans soient populaires?
Ce n'est pas populaire, mais c'est accessible.
Accessible.
Non, je pense que c'est littéraire, mais c'est aussi accessible. Un de mes modèles, similant surtout, mais Graham Greene, grand écrivain anglais, qui a mérité le prix Nobel, mais il est trop vendu pour le prix Nobel, je pense. Mais aussi, une grande œuvre, 40 livres, des histoires des espions, en fait, des histoires d'amour, en fait, des polars, des romans noirs, mais toujours avec un point de vue très existentiel au sujet de la solitude, en fait, de la vie. La question de foi, il est converti de cathode, il est catho quand il était à Oxford. Mais le fait que, franchement, on est seul dans un univers. Univers très impitoyable, en fait. Pour moi, ça, c'était aussi une clé pour moi. J'aime le fait qu'à Paris, par exemple, où je vis, oui, j'ai des copains qui sont des universitaires à Sciences Po, de Grand Normal, qui lisent mes romans, mais aussi ma concierge. Je suis très fier de ça.
Mais je comprends. Alors, il y a un autre ingrédient, j'allais dire, qu'on retrouve facilement dans votre littérature, Douglas Kennedy, c'est le guet-apens, le principe du guet-apens. La naïveté vous intéresse?
Oui, mais continuez.
Souvent, hein, dans vos livres, il y a ce moment, en fait, où le personnage qu'on suit se fait avoir.
Oui, où tout va basculer, oui. Mais écoutez, ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. J'ai passé, en fait, une heure très difficile avec un de mes grands copains à Londres, écrivain journaliste brillante qui a eu une crise cérébrale il y a 5 ans. Il est dans un fauteuil roulant. Maintenant, il tape avec un doigt. Il n'a pas une vie maintenant. Franchement, ça, c'était la musique du hasard. Ça, c'est la vie tout le temps. Ça, c'est la vie tout le temps. Et montrez-moi une vie sans ça. Montrez-moi une vie sans des choses tragiques qui arrivent par hasard.
Bien sûr, mais il n'y a pas seulement ça dans vos livres. Il y a aussi le héros qui tombe dans le piège.
Oui.
Alors que nous, on se dit, hein, il ne devrait pas y aller.
Mais ça, c'est un roman noir aussi. Ça, c'est, et aussi une autre chose. Tout le monde adore des cauchemars des autres.
Ça fait. Ok, oui. Donc ce que vous aimez dans la naïveté, c'est finalement de pouvoir la vivre par procuration parce qu'elle donne des frissons.
Oui, tout à fait. Mais c'est romanesque.
C'est romanesque.
C'est romanesque.
Effectivement.
Oui, et je suis romancier, donc.
Donc oui.
C'est romanesque. Voilà.
Donc ça tombe bien parce qu'on est dedans. Donc est-ce qu'on pourrait dire que, au final, quand même, parce que tous vos personnages tournent toujours beaucoup autour des trahisons, de la jalousie, des liens de famille qui sont très tissés. D'ailleurs, enfin, c'est toujours aussi dangereux d'être en couple, hein, dans vos romans. Définitivement, quand même. Hein.
Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de couples de succès? Je suis divorcé deux fois, en fait. Je suis pas un bon candidat pour ça. J'ai grandi au milieu d'un mariage pas terrible, mes parents. Mais grâce à ça, j'ai commencé de fuir, en fait, les maisons très jeune. Au début, la bibliothèque, quand j'avais 13 ans, j'ai découvert la cinémathèque new-yorkaise au musée de l'art moderne. Et ça, c'était le
début. Donc, il y a du bon dans le fait que le couple soit dangereux.
Mais honnêtement, en fait, OK, je vais dire ça. La poursuite de bonheur est toujours exactement comme ça, une poursuite. Et je connais des couples, en fait, 30, 40 ans stables. On demande des choses en privé. En fait, il y a toujours des compromis et ça, c'est cool. Tout le monde rêve, en fait, de l'amour éternel, des choses qui vont continuer, un soutien absolu, etc., etc. La vérité, en fait,
elle est dans
une histoire d'amour commence comme ça. OK, voilà, j'ai une idée. OK, une histoire d'amour comme ça. En fait, oui. Et on a vécu ça. Et oui, en fait, tout est extraordinaire. On est si amoureux, en fait. La route est complètement dégagée. Le sexe est hallucinant. Et puis, il y a un moment, après quelques mois, quand c'était une matinée, deux camions arrivent avec toutes les valises.
Là, c'est le début de la
fin. Ouais, mais ça, c'est le début de quelque chose romanesque. OK. Mais tout le monde a des valises. Et donc, quand je construis des personnages dans mes romans, en fait, je suis très conscient des valises. Parce que tout le monde a des valises. Et dans un couple, surtout si, oui, on commence à vivre ensemble, c'est une question, est-ce que c'est possible de porter des valises de l'autre? Et l'inverse. Mais la vérité, en fait, le roman moderne a commencé avec Madame Bovary. Qu'est-ce que c'est le sujet de Madame Bovary?
Ouais.
L'horreur de la vie quotidienne. Et
l'ennui.
Et l'ennui, exactement. C'était la première fois dans la littérature mondiale que l'ennui est devenu un sujet. Flaubert a compris ça.
Alors, il y en a une autre valise qui est pas mal, hein, aussi, dans vos livres, c'est quand on hérite d'une famille qui a fait ce qu'elle a pu pour s'adapter. Là, Brendan vient d'une famille d'immigrés, et donc il essaye, finalement, d'avoir une vie pour plaire à son père, plus que pour avoir sa vie à lui.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est aussi un grand problème, en fait, dans beaucoup de sociétés. Ce n'est pas simplement les États-Unis. En fait, j'ai un grand public au Corée du Sud, pas du Nord, malheureusement, en fait, Pyongyang, à l'avenir, peut-être, mais pas maintenant, peut-être Kim Jong-un sera une fan. Mais Corée du Sud, et j'ai fait deux voyages de promotion au Corée du Sud, et l'homme qui voulait vivre sa vie, un de mes romans,
tout à fait,
est devenu un roman culte.
Tout à fait. Est devenu un film aussi.
Et un très bon film français, ouais, avec Romain Duris et Catherine Deneuve et Marion Azot. Un film excellent. Mais honnêtement, au Corée du Sud, en fait, le conformisme est omniprésent et la pression familiale d'être quelqu'un de succès, c'est partout, en fait. Donc, en fait, ça, c'est une autre pression tout le temps dans toutes les sociétés. Et aussi un aspect, franchement, en fait, de dilemme que tout le monde partage. OK, je voudrais faire ça, mais est-ce que c'est possible de faire le risque de faire ça? Dans mon livre, toutes ces grandes questions sans réponse, j'ai décrit, en fait, une soirée après le succès de l'homme qui voulait vivre sa vie, quand j'ai dîné avec mon père à New York. Il avait 70 ans, il commence de dire, et mon père était un grand buveur, et aussi, il était franchement quelqu'un en dehors de travail. J'ai juste signé un grand contrat à New York, et je ne suis pas quelqu'un très étoilé, en fait, très bling-bling, je suis très privé. Etc. Mon idée de succès, c'est en fait les meilleures places pour la Philharmonie de Berlin. Ça c'est cool.
Avec votre moi. Description du succès.
Oui. En fait, et l'avenir pour mes enfants, c'est pas mal.
Ok. C'est pas mal.
Mais ce n'est pas.
Mais c'est discret.
Il faut que il travaille aussi parce que ça c'est très important. Mais avec mon père, en fait, honnêtement, pendant le dîner, il commence de dire, pour peut-être son cinquième fois, l'horreur de mariage avec ma mère. Et je lui ai dit, mais tu as 70 ans, pourquoi tu restes? Et puis, parce que je suis quelqu'un, peut-être c'est mon aspect Capricorne, 1er janvier, mais je suis quelqu'un qui fait des, qui fait des listes et aussi très organisé. J'ai demandé, OK, qu'est-ce que c'est la situation financière? C'était pas terrible, mais j'ai expliqué. Il peut vendre l'appart, il peut faire ça.
Il peut s'en sortir.
Oui, et son rêve, c'était un petit cottage dans le Maine, au bord de la mer, un bateau, un 4x4, une femme plus saine, un peu plus jeune, la cinquantaine, idéale. En fait, enseigner le business dans un collège. Et j'ai dit, mais ça, c'est possible. Et j'ai expliqué comment. Et il a pris les doigts de ma main, il était bourré, il a essayé de casser mes doigts. Il m'a dit ça. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Et j'ai vu, en fait, son visage. Freud a dit, il y a un moment quand le fils va tuer le père. Ça, c'était le moment.
C'était le dîner.
Oui, tout à fait. Mais je lui ai dit, en fait, la sortie est juste là-bas. D'ici, de ça, c'est quoi? 1,5 mètre, 2 mètres. Mais pour beaucoup, beaucoup d'entre nous,
pourquoi
c'est impossible d'ouvrir la porte. Pourquoi, en fait, la peur? La peur, la plupart du temps, la peur. Et aussi, une de mes hypothèses, et c'est simplement une hypothèse, le malheur devient, en fait, un système de météo dans une vie aussi. Le malheur aussi est un choix. Clairement, il y a des choses qui arrivent qui sont horribles. J'ai des copains et copines qui ont perdu un enfant. C'est inimaginable. En fait, c'est au-delà de pire. J'ai rencontré, en fait, c'était à Dijon il y a quelques semaines. J'ai signé là-bas une femme qui m'a dit, en fait, ma fille est morte d'une franchement cancer de cerveau. Quand elle avait 6 ans, une fille unique, je suis tombée enceinte quand j'avais 40 ans. Mon mariage a basculé. J'ai lu quitter le monde. Et ça m'a aidé. Et j'ai dit merci, en fait.
Au fond, vous êtes extrêmement émotif. Vous écrivez aussi parce que toutes ces histoires, vous les absorbez comme des...
Oh, mais tout à fait. En fait, comme j'ai dit une fois, oui, jamais couché avec un écrivain parce que tout est et de matériel. mais ça, c'est la vérité aussi. Chaque fois quand je rencontre quelqu'un, je pose des questions parce que aussi, en fait, je suis intéressé, pas des autres.
Mais tout d'un coup, vous êtes empathique de tout le temps.
Oui, par des gens impolis, pas des égoïstes.
Mais ça, c'est
oui, plus dur, oui, oui. Mais en même temps, ça c'est intéressant, en fait. Je me souviens très bien d'un dîner avec un acteur très connu ici. Je vais vous dire son nom après. Mais en fait, le mec était absolument odieux.
J'en connais aussi.
Oui, et à côté de sa nana qui... Il a touché de manière intime à table tout le temps. J'étais juste à côté, j'étais comme ça. Et le mec a commencé à dire des choses. J'ai lu vos romans. J'ai entendu des romans de gars. Et
sympa.
J'ai dit, franchement, la conversation est terminée. Comme ça. Et aussi, je lui ai dit aussi, d'après mon expérience, l'arrogance cache le doute. L'arrogance cache le doute. Et ça m'intéresse aussi. Donc, même si quelqu'un est odieux, qu'est-ce que c'est l'histoire derrière de
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Quel est le doute en question?
Oui, mais oui, j'en suis sûr de ça.
Et quand vous vous énervez, vous préférez vous mettre en colère en anglais ou en français?
Si je suis énervé, en fait, je peux faire les deux. Ça dépend.
Vraiment bilingue, alors.
Après 2 heures de sommeil, en fait, oui, c'est pas mal. Je fais des petites erreurs, mais C'est rare que je suis énervé, mais aussi je deviens très froid et très calme. Jamais fâché comme ça.
Vous montez pas dans les tours.
Tout à fait, mais okay. Très très froid.
Alors, ce sera ma dernière question, Douglas Kennedy. Okay. Est-ce que finalement, on peut dire que dans l'ensemble de votre œuvre, et particulièrement dans ce livre, mais la question fondamentale, la thématique de votre livre, c'est comment être soi-même ?
Pourquoi on construit sa propre prison ? Et aussi, en fait, pourquoi, en fait, tout le monde rêve de la liberté et tout le monde évite la liberté. Je pense que ça, c'est la condition humaine pour moi. Et ça, c'est un thème qui est constant dans... et aussi, pourquoi on rate des choses. Surtout, en fait, peut-être globalement, en fait, la plus grande lutte de la vie, c'est soi-même.
Vous êtes très balsacien, quand même. Comme vision du monde,
je pense que ce n'est pas pessimiste, c'est simplement réaliste. C'est réaliste, mais aussi avec une certaine empathie. En fait, mon thérapeute m'a dit ça une fois, quelque chose de très intéressant. Il dit la raison pour laquelle il faut en fait avoir l'empathie pour les autres, et parce que si on est en face de quelqu'un, même si quelqu'un de succès. On est en face de quelqu'un au milieu d'une grande lutte, parce que tout le monde lutte, et d'une certaine manière, tout le monde est dessus. Et ça, c'est aussi un aspect de la condition humaine. J'en suis sûr, si oui, on parle avec quelqu'un en fait célèbre et du succès, en fait, les déceptions sont partout. Une autre chose derrière de mon écriture, et c'est un point de vue. Qu'est-ce que c'est le destin? Qu'est-ce que c'est le destin? En fait, honnêtement, est-ce que c'est vrai que, OK, on écrit son propre destin ou pas? Pour moi, le destin, des choses arrivent dans une vie et de temps en temps, des choses pas terribles ou des choses très positives. Et honnêtement, après ça, il y a des choix. C'est quand on rencontre quelqu'un. Et il y a un coup de foudre, bang. Et puis il y a des choix. Après ça, OK.
OK. Je pense que c'est très bien comme fin pour cette rencontre. Merci beaucoup, okay. Douglas Kennedy.
Merci à vous. C'était super. Merci.